face à nous. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, diminution de la consommation, une consommation qui change. On a aussi des défis climatiques très importants aussi à gérer la production. Et on a des habitudes et une concurrence étrangère qui est toujours bien là. Et vous parlez d'îlot de cherté, il faut le prendre dans les deux sens. C'est pas qu'à produire, c'est surtout un consommateur suisse qui est prêt à payer un certain prix pour des produits. Donc l'attrait de l'importation est important parce qu'on produit beaucoup moins cher dans nos pays limitrophes, principalement pour les vins d'entrée de gamme. Et donc les marges sont extrêmement importantes pour les distributeurs. Donc tout d'intérêt à vendre des produits d'importation parce que les marges sont meilleures.
Pas le jeu, hein. On a tous dans nos boîtes aux lettres des journaux avec des promotions insensées sur des vins espagnols, français, italiens, etc. Quand ils ne viennent pas de beaucoup plus loin, Chili, Afrique du Sud.
C'est là où je joue pas le jeu et envie de dire peut-être c'est au consommateur de changer un tout petit peu le cap. Parce que un revendeur, au moment s'il a acheté un lot et il n'arrive pas à le vendre, il va arrêter de l'acheter.
Plus.
Donc c'est au consommateur à faire ses habitudes et à peut-être à changer ses habitudes. Aujourd'hui, on a une société qui doit radicalement prendre un cap beaucoup plus éthique et beaucoup plus durable. Et quand on parle de durabilité, c'est pas que de l'écologie, c'est aussi du social par le prix d'achat auprès du producteur. Et c'est la raison économique, la dernière. Mais je venons sur le social, ce qui est assez incroyable. Je ne pense pas que le consommateur lambda, lorsqu'il achète une bouteille à 5 francs dans un grand distributeur parce qu'il est en action à 70% de rabais, il pense à un moment que peut-être c'est le bon prix auprès du producteur. Et ça, c'est une question aujourd'hui qu'on n'a pas pour le vin.
Et ceux qui travaillent chez le producteur.
Et ceux qui travaillent, exactement. On a vraiment cette sensation-là. En Suisse, on a des normes, des salaires minimaux pour l'agriculture qui sont déjà très bas pour vivre en Suisse. Mais au moins, il y a un vrai salaire
décent. 3000 francs par mois.
3400
francs. 3400, oui, c'est ça.
3400 francs. En comparaison.
En France, 1500, 1600.
On est au SMIC, on a 1400 euros, 1500 euros. Et en Italie, pour autant, ça dépend des régions, on va être entre 800 et 1200 euros. Donc déjà, et ça, c'est quand le collaborateur, il est rémunéré et déclaré et où à certains endroits du monde on a des doutes quand même sur ce type de projet. Donc je pense que c'est aussi ça que les gens doivent prendre en compte aujourd'hui. Quand on voit un vin à 5 francs, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et lorsqu'on voit que les vins suisses, certains sont bradés des fois dans ces prix-là par des distributeurs, on ne devrait pas être choqué de payer ce prix-là. Parce que ça veut dire qu'au début de la chaîne, le producteur, il n'a pas été payé.
Avec les abricots, avec toutes sortes
de... Ça ne se limite pas au vin, exactement. Ouais. Ça se limite, c'est tout le produit agricole qui a cette maladie aujourd'hui. Et au final, il ne faut pas oublier, lorsqu'un produit est vendu, le seul gagnant, c'est celui qui vous le vend à la fin. Ce n'est pas celui qui, au début, qui l'a produit. Et ça, on le voit dans tous les produits agricoles.
La proximité, la durabilité par la proximité, c'est le credo aujourd'hui.
C'est fondamental. C'est la
Attention,
proximité.
Parce que j'ai une question qui pique après.
Mais avec grand plaisir. C'est fondamental parce que la proximité, c'est quoi? C'est surtout la traçabilité. Lorsque vous avez des questions, vous avez besoin d'avoir des informations, votre producteur, il est là, il peut répondre à ces questions-là. Lorsque vous achetez un produit qui vient de 7, 8, 20 000 kilomètres, vous n'avez aucune trace. Vous avez peut-être un certificat qui vous dit qu'il y a une norme durable. Permettez-moi dans certains certificats d'avoir des doutes quand même, parce que avant tout, une certification, c'est on paye quelqu'un pour nous le contrôler. On a vu par le passé que c'est pas toujours quelque chose de crédible.
Mais pourquoi alors on va en Chine, au Japon, aux États-Unis pour essayer de maintenir ce 1% d'exportation des vins suisses?
Et alors c'est là l'effet un petit peu bizarre, c'est que pour donner de la crédibilité des vins suisses sur le marché suisse, on a besoin d'être existant sur le marché international. Et c'est donc nécessaire
que nos visiteurs futurs sachent qu'il y a des vins en Suisse.
Et surtout que les médias internationaux, dont la majorité des gens lisent ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les magazines imprimés, lisent des reportages sur les vins suisses et aussi répondent à une demande. Parce que c'est un peu bizarre à dire ça, mais on reçoit aussi de la demande d'importateurs, de consommateurs dans certains marchés qui souhaiteraient avoir des vins suisses, principalement des cépages indigènes. C'est là où on revient sur le fait de goûter le goût de la Suisse, en disant la Suisse c'est incroyable, on est venu Suisse, on aimerait encore quelques bouteilles, et on doit répondre aussi à cette demande-là. Mais les marchés prioritaires à l'exportation aujourd'hui restent en Europe déjà, en priorité. L'Allemagne, la France, la Belgique sont des marchés pour nous qui sont très importants et qui sont un lien au final avec le tourisme. Il faut voir le lien.
Alors
aussi.
Justement, vous avez un partenariat avec Suisse Tourisme. Hein. Il faut que les vins, et ça tombe sous le sens finalement quand on y réfléchit, fassent partie de l'expérience touristique de la Suisse, hein, comme le beau paysage, comme le bateau sur le lac.
C'est exactement ça. Lorsque vous prenez un client américain ou asiatique qui va venir en Suisse pour un voyage et qui aimerait découvrir et goûter la Suisse, la case vin doit faire partie de l'échiquier. Mais s'il n'en a pas entendu parler une fois ou on n'a même pas parlé dans des supports de promotion, il n'aura peut-être même pas le réflexe de le faire. Et si en plus dans nos restaurants respectifs ou nos hôtels, on n'a pas le réflexe non plus de proposer quelque chose de local, on a loupé une coche.
Ça existe encore, ça? Qui est pas que du local, je l'entends, mais qui est pas du tout, ça existe, ça?
Alors, de moins en moins. Ouais. Je crois qu'il y a une prise de conscience parce énorme de la restauration.
J'avais le mot paradoxalement qui venait, mais c'est pas un paradoxe, mais il y a une claire tendance. Aujourd'hui, les vins suisses sont en premier, il y a des choses excellentes, il y a des gens au service qui les proposent, qui les mettent en avant. En tout cas, l'expérience client que j'ai moi.
Oui.
Bon, c'est peut-être
oui.
dans nos deux cantons Vitigny, Nicole, c'est possible.
Mais vous savez, c'est pas les meilleurs endroits pour croire que tout est beau et tout est rose.
Ah oui.
J'ai vécu une dernière expérience au cœur du Valais, où quand je m'assieds juste pour prendre un verre d'apéritif à 18h30, j'ai dû demander si je peux au moins avoir un vin local. Donc j'ai vécu cette petite expérience un peu rigolote et ils en avaient, donc c'était un réflexe peut-être pas inné. Donc il faut pas croire que le canton de Vaud, le canton du Valais, c'est acquis par rapport au reste de la Suisse. Ce travail il doit être global.
Oh.
Mais si on prend l'exemple de la restauration, je pense que il y a vraiment eu un changement, il y a une volonté aussi de défendre le local. Je viens d'entendre encore un reportage à la radio de vos confrères de la RTS qui faisait un reportage sur un restaurateur de la Riviera et qui avait fait un choix sur un restaurant avec 70 km de distance pour l'ensemble de ses produits et la carte des vins. La question, là aussi, on a respecté cette condition. Donc, et ça, c'est nouveau, c'est novateur. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi un changement qui est opéré dans beaucoup de restaurateurs. Donc, ça me réjouit aussi que ce travail perdure aussi dans d'autres secteurs, le mien d'origine. Puisque je viens quand même de la gastronomie avant tout, a pris aussi ce chemin de la proximité.
Bon, j'aimerais qu'on termine, il nous reste quelques minutes sur le climat, vous l'avez abordé, ça fait partie des écueils, des problèmes, ça peut faire partie des opportunités aussi, hein. Après tout, il y a du vin qui pousse en Méditerranée, donc on part pas du principe que c'est la culture la plus en danger avec les quelques degrés qu'on nous promet. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Vous le voyez-vous comme une chance ou comme un écueil?
Les deux. La difficulté de la durabilité, elle est constante. Je crois qu'aujourd'hui, tous les accidents climatiques qui arrivent avec des problématiques autour de la montagne, autour des fleuves, autour des lacs, des pluies fortes.
C'est ça, des météos plus instables et plus
grêle, gel, etc. Ouais. Donc ça, c'est le côté négatif. Et le côté positif aussi, de retravailler nos cépages peut-être indigènes qu'on avait dit pas assez productifs parce que manque de maturité. Peut-être travailler avec la recherche aussi agronomique. On a la Suisse a un grand centre de recherche sur les cépages hybrides ou qu'on appelle PIWI dans la terminologie interne, qui est un peu protection aux champignons et qui, pourquoi pas, je crois qu'il faut profiter des opportunités. On a aussi des cépages qui ont difficulté aujourd'hui avec la chaleur. La Suisse a un grand défi avec ses pinots noirs, principalement le Valais, l'exemple, de gérer la chaleur du pinot noir, c'est difficile. Ils changent de technique à la vigne, principalement.
Ça peut plus les feuilles.
On a par exemple, il y a les viticulteurs, ça fait des dizaines d'années qu'ils cherchent en réalité. Et donc moi j'ai pas peur, ils vont être prêts. D'ailleurs, on a aucun vin chez nous aujourd'hui qui sont brûlés. Donc on voit que nos viticulteurs depuis très longtemps, ils sont adaptés au climat. Donc il y a une opportunité à continuer ce travail là, au contraire.
À cet égard là, on a un projet dans le Chablais là, c'est Yvonne Grandeur Nature. Qu'est-ce qu'il représente pour vous vu de Berne, mis à part l'amitié pour la région que vous pouvez avoir, c'est un exemple,
c'est un magnifique exemple d'initiative régionale. Des fois on veut trop faire quelque chose de trop national et attendant un régime trop strict de loin et peut-être trop lointain. Là, c'est une initiative de productrices et producteurs qui ont la même vision, qui s'engagent, qui
pour le rappeler, avec un projet de durabilité globale, hein, dans toutes les strates du métier, finalement, essayer d'aller vers la durabilité.
Voilà, avec une vision qui est la même pour tout le monde. Et puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils échangent de ce qu'ils font. Ils se le gardent pas pour eux. Donc c'est une initiative, pour moi, un peu un projet pilote qui est novateur. On en a d'autres comme ça en Suisse, peut-être moins connus parce que c'est peut-être pas dans la région pour Radio Chablais. Mais on a d'autres projets pilotes qui ont été imaginés dans le même tas d'esprit. Et nous, on se réjouit. Ça démontre qu'on n'attend pas d'une structure admin des solutions, mais que la production elle-même se prend en main pour développer quelque chose. Et ça, je pense que c'est peut-être la grande différence avec d'autres secteurs économiques.
Bon, les agriculteurs doivent se réapproprier la terre, hein, c'est eux qui savent. C'est important.
Sans eux, on n'est rien.
Bon, j'aimerais qu'on termine. Voilà, c'est un peu moins joyeux, mais c'est vrai que en venant vous voir, j'ai ouvert quelques articles. Je vois que enlever de la vigne pour mettre autre chose, c'est de plus en plus commun. On connaît les problèmes de morcellement de parcelles, de gens qui abandonnent parce que c'est trop dur ou parce qu'il n'y a pas assez de parcelles, etc. Il y a des grandes maisons qui ont des difficultés financières. Comment y va ce monde-là?
Bah, c'est exactement l'image qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un défi entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme. Et alors, en tant que directeur de promotion, on se préoccupe pas de la production. On a, c'est pas notre mission. Notre mission, elle est dans l'image et la volonté de donner envie. Mais c'est vrai qu'on est tout autant préoccupé de ça parce que les producteurs, il faut qu'ils arrivent à nous faire des produits d'exception. Et si le mental n'est pas là, on va le ressentir dans le produit final. La question aujourd'hui de réguler encore plus la production, soit par les quotas de production, soit par l'arrachage, bah, c'est des techniques qui sont là sur la table et que la production doit choisir quel chemin ils vont faire. Personnellement, je pense qu'il est nécessaire d'adapter un tout petit peu l'offre par rapport à ce que la demande du consommateur et de ses attentes est bien là. Et ça n'empêchera pas d'adapter. Alors ça peut être par de la régulation de production, ça peut être par de l'arrachage, ça peut être par du remaniement de surface agricole. Ça veut dire que potentiellement une durée limitée, on enlève de la vigne et on y plante autre chose d'agriculture à la place. Pourquoi ? Simplement pour ce qu'on produit, c'est le top et ça correspond à des consommateurs.
C'est l'envie en tout cas du directeur de Swiss Wine Promotion. Merci à vous, Nicolas Yost.
Mais merci.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Supplément. Ananas sur Radio Chablais.
Et dire que la jeunesse qui rentre de l'école écoute nos bêtises. Oui. Bastien, salut.
Salut cette équipe, salut Loïc. Aujourd'hui, je me mets dans la peau d'une personne qu'on connaît tous, mais qui n'est pas forcément appréciée.
Comment ça, tu te mets dans la...
Ouais. Dans la peau, direct. Non, pas vraiment dans la...
Ok. Je l'ai pris au premier degré, je me suis inquiété.
Une mise en situation. Imagine, tu réponds au téléphone.
Ouais.
Donc tu dis...
Allô?
Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Bastien, je travaille chez Assurance. En 2026, les taux vont changer, donc j'aimerais bien vérifier si vos assurances sont à jour. Sur Suisse, vous êtes très bien couvert, mais dans le monde, il existe des assurances assez folles dont vous avez absolument besoin, Loïc.
Moi, en règle générale, je leur réponds, comment avez-vous mon numéro de téléphone? C'est parfaitement illégal, je suis sur de liste noire. Ça raccroche instantanément, ça marche pas mal.
Bah, n'empêche que, justement, je vais te parler un peu de ces assurances qui existent dans le monde, et on va se rendre compte que, en Suisse, on n'est pas si mal loti, quoi.
Ok, vas-y, on va y.
Est-ce que, Loïc, tu es sûr d'être en sécurité? Tu sais que le danger peut venir d'ailleurs?
Tu veux dire, il y a une assurance contre les aliens, t'es en train de me dire ça?
C'est exactement là où je veux en venir. Aux États-Unis, il y a 6 millions de personnes qui sont convaincues d'avoir été enlevées par des extraterrestres. C'est une véritable étude. Tu peux donc t'assurer contre un kidnapping alien. Vraiment.
Okay.
Montant de la couverture, 10 millions de dollars. Mais attention, il y a une petite ligne en bas du contrat.
Oui.
L'indemnisation se fait à raison de 1 dollar pendant 10 millions d'années.
Ah!
À ce rythme-là, tu vas pas très loin.
Ah, elle est pas mal.
Ouais.
Elle est pas mal. Non, mais il est bon le business.
Mais t'en as besoin. T'en as besoin de cette assurance.
Ah, écoute.
Moi, je vais te faire signer des trucs à la fin de ce truc. Non, vraiment. La deuxième assurance dont tu as absolument besoin, mariage pluvieux, mariage indemnisé. Se marier, c'est un super beau jour, le plus beau jour de ta vie. Sauf si mamie glisse sur le tapis, si le traiteur il fait faillite, et surtout si la météo décide de transformer ta cérémonie en édition gadou. Heureusement, il existe des assurances mariage. En Autriche, par exemple, si la pluie elle ruine ta fête, tu touches 5000 balles.
Voilà.
En Allemagne, certains assureurs ont même prévu 1000 euros pour que les mariés, si les mariés se lâchent au pied de l'autel.
Oh!
Boum, 1000 balles.
Tu récupères 1000 balles.
Et le suivi psychologique.
Ça, je m'excuse. Je m'excuse, c'est presque une invitation, ça. C'est pas une assurance.
N'empêche, il y a un business, hein. Tu vas te marier en Angleterre ou en Écosse, 5000 balles. Paf, 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 les uns vers les autres.
Ouais, mais combien le coûte une assurance? Ouais, la vache.
J'ai aucune idée.
Genre, la vache.
Numéro 3, est-ce que tu fais du golf? Ça t'arrive de faire du golf?
Oui, tous les matins avant le petit déj.
Ah bah voilà, bah parfait, cette assurance est faite pour toi, car c'est vrai que le golf c'est dangereux. Tu vois, t'as un polo bien repassé, petit chariot électrique, ça semble assez chill le golf.
Ouais.
Et pourtant, on peut s'assurer pour jouer au golf contre le vol d'équipement, jusque là ok, les blessures causées par une balle rebondissante,
oui,
ou un club mal luné, si jamais tu t'en prends dans la tronche, que sais-je, et surtout contre le trou en un. Parce qu'il y a une tradition dans le golf, c'est que si tu fais un trou en un, et tu dois payer une tournée à tous les autres joueurs et parfois même à tout le parcours. Et ça peut vite être très cher, donc tu peux opter pour cette assurance qui payera cette tournée.
D'accord, donc une assurance spéciale bon joueur.
Voilà. Et la dernière, et je pense que c'est la plus importante pour toi.
Oui.
C'est celle d'assurer son corps.
Oh, fais-moi des avances.
Pour dire, Julia Roberts a assuré son sourire, Mariah Carey ses jambes, Kim Kardashian ses fesses, Cristiano Ronaldo, ses jambes, elles valent 111 millions de dollars.
Est-ce qu'on sait si Rocco Siffredi est assuré?
Je ne sais pas, mais si c'est le cas, ça doit valoir un certain petit budget. Le doigt de Keith Richards, 1,5 million. La voix de Bruce Springsteen, 6 millions. Donc je pense, Loïc, qu'il est primordial que t'assures en tant qu'animateur radio à voix atypique, il faut que t'assures tes cordes vocales, c'est indispensable.
Pour le montant de 6 dollars.
Alors Loïc, je propose qu'on se rencontre chez vous pour signer tout ça demain matin 10h, c'est bon pour vous?
Oui, ça m'a surpris.
Ah carrément. Bisous.
Supplément, supplément ananas sur Radio Chablais.
Caramba.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Certaines personnes, des fois, ils parlent vite, hein? Et puis des fois, on comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai.
Montre voir sur Radio Chablais.
Cette semaine, dans Montre voir, j'ai transpiré. On est monté à pied dans les hauts du Bouvray pour découvrir la source supérieure du Bouvray. Et je suis du coup avec Yannick, salut.
Salut.
Et avec Olivier, salut.
Salut.
Alors, par rapport à cette source, car aujourd'hui c'est Montre voir, le parcours de l'eau, qu'est-ce que vous avez à voir avec cette source en fait?
Mon job, c'est de contrôler un peu toutes ces sources, les débits, les contrôles de tout ce qui est traitement d'eau, et j'en passe.
Tu es surveillant réseau.
Exactement.
Et toi, Olivier?
Moi, je suis chef service eau potable, donc c'est moi qui suis responsable de distribution d'eau potable, donc qui encadre les équipes qui travaillent dans la distribution d'eau potable.
T'es le chef à Yannick en fait.
Exact, ouais, c'est ça.
Alors comment ça se passe là? On est devant une porte métallique, on entend l'eau à l'intérieur, qu'est-ce qui s'y cache?
Une source.
Mais ça vient d'où une source en fait?
Ah, ça vient de la nappe phréatique qui se trouve en dessus de nous, des roches, l'eau qui s'infile dans le sol.
Disons, moi j'ai toujours eu cette image du glacier. Non, c'est de l'eau de pluie.
Entre autres.
Pas que.
Pas que.
C'est de l'eau de pluie, donc ça, ici, il y a de la neige aussi qui fond et puis qui s'infiltre dans le sol. Puis le sol, il joue un rôle de filtre, puis après l'eau ressort. Bah là, on a vraiment beaucoup de chance parce que l'eau, elle est très bien filtrée. Bah, il faut, s'il y a un orage ou c'est une à deux semaines après seulement que le débit commence à augmenter légèrement. Le sol filtre très bien l'eau et puis on a une eau qui est très, très propre ici qu'on capte.
Et donc l'été, si d'un coup, on a 2-3 semaines de canicule, ça peut mettre un peu du chenil dans une source?
Tout à fait. En l'occurrence, ici, au Bouvray, on a une source qui est tellement clean qu'on fait quasiment jamais rien. D'ailleurs, c'est la seule source sur notre réseau qui a aucun traitement, c'est-à-dire ni UV, ni chloration. On a aussi des membranes d'ultrafiltration sur certaines sources. Et pour le lac Léman, on a vraiment strictement rien du tout. Donc, c'est de l'eau pure source, on va dire, quoi.
Du coup, est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur?
Mais avec grand plaisir.
Ils m'ont donné soif.
Certaines personnes, des fois, ils parlent vite, hein? Et puis des fois, on comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai.
Montre voir sur Radio Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc, bonjour tout le monde.
La chaleur ne nous arrête pas, c'est avec courage hein, que nous ne renonçons pas à parler de sport comme tous les lundis dans le mag. On va avoir de la course à pied, de la gymnastique, mais maintenant là tout de suite on s'intéresse à l'euro féminin de basket qui commence dans 2 jours.
Et avec l'équipe de Suisse, une première depuis 1956. La Nati aura même l'honneur de disputer le match d'ouverture mercredi à 19h30 face à l'un des pays hôtes, la Grèce, dans une salle du Pirée qui sera sans nul doute chauffée à blanc. La formation élevée 49e au classement mondial ne sera de loin pas favorite dans un groupe composé donc de la Grèce, de la Turquie et de la France. Mais sa capitaine, la Veuvezane Evita Herminjar, veut y croire. Interview.
On est vraiment super excités. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Voilà. On va vraiment là-bas pour essayer d'aller gagner des matchs et faire la surprise.
Pour le moment, comment vous trouvez l'équipe? Dans quelle forme? Vos coéquipières aussi, comment elles se sentent? C'est toujours un peu ce même sentiment qui est partagé d'excitation?
Oui, bien sûr, tout le monde est vraiment super excité. Voilà, on a pu avoir une superbe préparation au Portugal. On a joué des grosses nations comme l'Espagne. Voilà, on savait à quoi s'attendre. C'est des grosses nations, c'était compliqué, mais c'est dans le dur où on apprend le plus. Donc là, on se sent vraiment prête pour le début de la compétition.
Vous parlez de ces matchs contre l'Espagne, contre le Portugal. Vous l'avez dit, c'est des grosses nations. Il y a eu des défaites. Vous vous attendiez à mieux. Qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de ces matchs-là?
Alors oui, je pense qu'on aurait vraiment pu mieux faire. Après, c'est vrai qu'on a eu une prépa beaucoup plus courte que ces autres nations. Donc je pense que ça fait quand même la différence. Après, voilà, comme on dit, la préparation et la compétition, c'est différent. Donc on espère que ça va mieux aller pour la compétition.
La compétition arrive très vite. Premier match mercredi, ce sera face à la Grèce. Match d'ouverture contre le pays hôte. Déjà ça, peut-être parler de ce match-là tout simplement. C'est assez unique de pouvoir vivre ce genre d'expérience, on imagine.
Ouais, c'est incroyable de pouvoir vivre ça avec ce groupe-là. On va faire ce match d'ouverture contre la Grèce. On sait que les Grecs sont chauds. Il y aura 15 000 personnes dans la salle. Donc voilà, on est trop fiers de pouvoir vivre un événement comme ça et on va essayer d'en profiter à fond.
C'est possible de se préparer à ce genre d'ambiance ?
Alors non, je pense qu'il n'y a pas une seule fille dans l'équipe qui a vécu un match avec autant de spectateurs dans la salle. Mais voilà, je pense que la pression, c'est pas nous qui l'avons, parce que la FIBA nous a mis 16e sur 16, donc on n'a rien à perdre. Donc voilà, la pression, je pense que c'est les autres équipes qui l'ont, et nous, on va essayer de se donner à fond et de représenter la Suisse du mieux qu'on peut.
Comment est-ce qu'on peut la décrire, cette ambiance dans l'Est de l'Europe ? Vous jouez, vous, en Slovaquie ? Comment vous pourriez la décrire, cette ambiance ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? On voit des vidéos, évidemment. Comment ça se passe ?
C'est à la dure, quoi. On espère que ça va être l'ambiance qu'on attend et qu'on entend.
Ouais, alors ça, il y aura une réponse assez vite. On l'a dit, ce sera mercredi. Un groupe avec la Grèce, la Turquie, la France. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de cette équipe de Suisse ?
Ben voilà, personne nous attend à gagner un match, mais nous, on est sûr de nous. On sait qu'on peut le faire. On va regarder tout le monde les yeux dans les yeux et on va vraiment tout faire pour essayer d'aller chercher un match, quoi.
Vous les connaissez un petit peu, ces adversaires ? On imagine que vous les avez étudiés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, bien sûr. Bah, y a des joueuses que des grosses joueuses qu'on peut voir à la télé ou qu'on suit sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr qu'on les connaît bien. Et voilà, on sait très bien que ça va être dur. Mais voilà, on est des sportifs de haut niveau et on doit rêver grand. Donc, on va tout faire pour.
L'objectif, c'est quoi ? Aller chercher une victoire ?
Oui, aller chercher le plus de victoires qu'on peut. Voilà, on sait que ça va peut-être être plus possible contre la Grèce ou la Turquie que voilà la France qui est quand même, je pense, le présumé du titre. Mais voilà, déjà, on va se focaliser sur ce premier match et puis on va tout faire pour aller le gagner.
Vous parlez de la France, une des équipes favorites hein, de la compétition. Comment vous allez l'aborder, cette confrontation ? C'est quoi ? C'est un match de gala ? C'est un match comme un autre ?
Ouais, je pense que bah, personnellement, en ayant joué presque 10 ans en France, pour moi, c'est comme vous avez dit, un match de gala. C'est des filles que je regarde à la télé, que j'admire, c'est des inspirations. Et pouvoir jouer contre des joueuses comme ça, bah, c'est juste une expérience à prendre et que j'oublierai jamais.
Ouais, c'est ça, c'est que ça n'a pas commencé, mais c'est déjà une expérience, vous le savez, que vous ne pourrez pas oublier, c'est ça ?
C'est ça. C'est cette qualification pour l'Euro, c'est un rêve, donc on va le vivre à fond.
Et la Suisse affrontera ainsi la Grèce mercredi, puis la Turquie jeudi et la France samedi. Avant, pourquoi pas, on le verra, une qualification pour la suite de la compétition.
On aimerait tellement Hop Suisse !
Radio Chablais, programme de nuit.
Du basket, ben on traverse la porte et on passe à la course à pied. Thierry, tu es allé prendre des nouvelles de François Leboeuf, un coureur aiglon qui a repris son activité il y a seulement quelques semaines.
Ouais, vous avez pu l'apercevoir sur la montée d'Illier, le tour du Val de Bagne ou encore hier sur la Nérivue-Molaison. Mais avant cela, le tout juste quarantenaire avait connu une double opération au mois de janvier, ses deux pieds étant touchés par le syndrome d'Aglund, d'une excroissance osseuse à l'arrière du talon qui peut irriter le tendon d'Achille. Jamais François Leboeuf n'avait connu de pause forcée aussi longue que celle de ce début d'année. Une convalescence qui a même changé son rapport à la course à pied. On écoute François Leboeuf.
J'ai utilisé ce calme-là pour réfléchir. Et puis ce qui en est ressorti assez clairement, c'est que j'avais envie de continuer à faire le sport. Donc ça, c'était pour la qualité de vie, mais pas à n'importe quel prix. Donc je me suis rendu compte que j'étais pas invincible. Donc, parce que pendant 10 ans, j'avais couru vraiment beaucoup sans aucun problème. Puis j'avais un peu l'impression que je pouvais faire un peu ce que je voulais. Puis que finalement, ça, c'était bon. Puis là, j'ai vu quand même que fallait que je fasse attention. Bon, je vieillis aussi, là, je viens d'avoir 40 ans. Et puis qu'il fallait, si je voulais continuer à faire du sport pendant longtemps, de manière saine, ben, il fallait que je mette des priorités. Et puis une chose qui est ressortie aussi, c'est que, bon, que moi et Thérèse, en même temps, les deux, on peut pas essayer de courir à haut niveau parce que ça fonctionne pas, ça fait trop. Puis là, c'est vraiment son tour. Elle a encore un potentiel de progresser. Et puis moi, j'ai eu mon tour, si on veut, aussi, avant. Donc c'est bien si elle peut le faire. Puis j'ai aussi vu que les enfants, ils courent de plus en plus aussi. Et puis j'ai envie d'être là pour eux. dans leurs pratiques sportives. Puis c'est vrai que si moi j'essaye de courir beaucoup aussi en même temps que eux courent, ça, j'arrive pas à être là aux entraînements puis à peut-être aussi les accompagner comme je voudrais le faire. Donc ça c'est aussi ressorti comme une priorité absolue si on veut. Donc peut-être être là pour les enfants, pour les déplacements, le coaching, puis c'était aussi une question peut-être aussi d'organisation dans ma vie aussi avec le travail et tout ça qu'on jongle. Puis donc je trouve que ça a été intéressant de, en tout cas j'en suis ressorti plus zen en tout cas de ça, puis je sais un peu plus où je vais avec le sport aussi, donc ça fait plaisir.
Ouais, il y a vraiment un avant et un après cette double préparation.
En tout cas pour moi oui, c'était je pense un peu l'occasion de faire une transition qui me permettrait de continuer dans le sport. Donc maintenant j'essaie de regarder moins les chronos puis de me concentrer plutôt sur le ressenti, sur l'expérience. Et puis, ça ne veut pas dire que j'essaie pas d'être bon. Donc, j'ai encore envie d'être compétitif, mais je pense que ça serait une erreur d'essayer de... Comme par exemple, bon, je vais sauter déjà. J'ai fait une revue Molaison, par exemple. Bon, j'étais à 4 minutes et demie même de mon meilleur chrono. Ben, après, ça ne m'a même pas dérangé, en fait, parce que déjà, je m'en attendais un peu parce que je reprends. Mais vu que l'expérience était positive et tout ça, puis j'avais accepté déjà au départ l'idée que j'allais marcher plus, que normalement, j'aime bien courir presque tout, sauf peut-être le dernier bout un peu. Donc j'étais prêt à ce que ce soit comme ça, puis c'était pas important. Puis j'étais content de l'avoir approché comme ça, parce que du coup, ça met pas de pression, je pars dans un rythme qui est adéquat, puis j'ai une expérience qui est plus positive, puis je pense que si je l'approche comme ça, puis ça va me permettre de faire du sport plus longtemps, puis avec garder le plaisir aussi.
Vous avez remarqué peut-être sur la course, vous venez d'en parler, une revue Molaison qui était ce week-end, que vous avez pu peut-être plus profiter que d'habitude?
Oui, quand même, parce que c'était comme par exemple du moment où je me disais, OK, ben là, ça venait dur, par exemple, et je voyais que j'étais un peu limite. Je me disais, OK, je marche, puis c'était correct de marcher. Et puis bon, tu marches, ben du coup, t'as le rythme cardiaque qui baisse, et puis tu te lèves la tête un peu plus. Et puis c'est vrai que ça change un peu d'être toujours vraiment regarder le chrono. Puis à la fin, tu te prends un peu au jeu sur le dernier bout, parce qu'avec les gens qui sont autour de toi pour essayer d'arriver. Donc t'as quand même ce petit thrill-là, mais en même temps, disons que tu joues pas ta vie là-dessus. Donc c'est... Ça change, puis c'est... En tout cas, ça m'a fait du bien. Après, j'ai aussi vu quand même... Ben, j'avais fait le tour de Val-de-Bagne 2 semaines avant. Et puis ça, c'était vraiment, vraiment bien passé. Mais c'était plus court. C'était 26 minutes sur un parcours qui me convient mieux. Puis le parcours, c'était moins technique aussi. Donc j'avais les meilleurs appuis pour les pieds. Alors là, j'avais moins senti finalement ce déficit peut-être d'entraînement. Puis encore le fait que... T'sais, mes pieds sont vraiment bien revenus, j'ai retrouvé la force dans le pied, mais ce qui manque encore, c'est un peu la stabilisation. T'sais, je le sens, par exemple, quand je cours en descente ou là, quand on même en montée, je le sentais, pas à cause de la pression, mais des fois, t'as pas les appuis solides quand tu pousses sur les pierriers et tout ça. Et puis, ça me gênait plus que disons, si c'était de l'asphalte ou... Puis c'est vrai que dans la rééducation, j'ai fait beaucoup de tapis roulants au début parce que c'était plus facile à contrôler, c'était plat. Je pouvais m'arrêter quand je voulais. T'sais, dès que je sentais que le pied fatiguait, je m'arrêtais. J'avais le grand dos à côté pour aller mettre les pieds dans l'eau froide et puis faire de la récupération directement derrière. Donc ça c'était plus facile comme ça. Mais là, je vois quand même qu'il y a encore un peu... Mais c'est bien, ça me donne encore des choses à travailler pour la suite.
Quel est le tracé idéal pour vous aujourd'hui en course? Quel profil?
C'est vrai que le fait d'avoir 40 ans, ben, ça me permet un peu de retrouver les podiums que j'avais plus en élite. Finalement, ben, j'arrivais plus à avoir le niveau. Puis là, c'est vrai que ça me redonne un peu de motivation pour retourner dans les grandes courses puis essayer de faire des podiums justement en M40. Puis alors que là, maintenant, c'est possible de le faire. Donc, ça change un petit peu. Puis ça me fait penser, bon, déjà, il y a les championnats suisses le week-end prochain. Donc, je vais certainement pas jouer le podium élite. Mais bon, là, je peux jouer la gang dans ma catégorie ou chez les masters. Puis voilà, ça ajoute un thrill de plus. Après, ça me motive. Puis après, c'est avec le club à Martigny, justement, donc pour ces championnats suisses le week-end prochain au Urny Trail. Donc ça, c'est quelque chose qui me motive. Après, à plus long terme, je sais pas, parce que d'un côté, les longues courses, si je réfléchis pas trop à tous les sacrifices que ça demande, j'ai envie de le faire. Mais après, quand je pense à, OK, ça veut dire que je dois faire ça, 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 ça et ça pour pouvoir faire une longue course, je me dis que finalement, j'ai peut-être plus envie de rester sur des formats plus courts, comme ça, je peux faire plus de courses. Et puis c'est moins taxant aussi au niveau énergie et tout ça. C'est plus facile de jongler avec, je trouve, avec la famille et puis avec le travail, t'arrives moins fatigué après aussi. Donc c'est voilà, au niveau de l'énergie, je trouve que c'est plus peut-être. Donc ce qui me motiverait, ce serait vraiment de continuer sur ces courses, ces formats plus courts, donc autant sur la route qu'en montagne.
Tout ça, ce dont vous nous parlez, il a fallu apprendre à l'accepter aussi. On imagine comment ça s'est passé, ce processus pour vous.
Maintenant, je dis oui, là, c'est facile, mais c'était pas forcément facile au début. C'est vrai que la remise en question, elle est jamais facile. Puis il y a cette incertitude au début. Puis puis quand même cette envie, moi j'adore la course à pied, donc ça me passionne et tout, mais finalement c'est, mais je suis vraiment content d'avoir eu cette chance là d'avoir été obligé de rien faire pendant d'être en fauteuil, le fauteuil roulant ça remet tout en question parce que t'es plus autonome, tu dois demander de l'aide. Et puis pour la première fois, j'avais du temps. Donc vraiment, parce que normalement, il y a toujours, tu cours dans tous les sens, t'as pas le temps de réfléchir. Puis ça demande du temps. Puis c'est pas quelque chose que j'avais fait depuis dans ma vie, je pense. En fait, je suis plutôt reconnaissant, en fait, que je suis presque reconnaissant d'avoir eu ce temps-là pour orienter la suite. J'ai envie de dire la carrière de course à pied parce que j'ai encore envie de courir. Puis mais aussi de mon rôle de comme papa, puis de mon rôle de mari, de mon rôle de comme enseignant spécialisé. Et puis c'était difficile, mais avec le recul, je me dis que c'était vraiment une bonne chose, en tout cas.
L'interview complète de François Leboeuf et un article sont à retrouver sur notre site internet radiochablais.ch. Place à la pub et on se retrouve pour parler gymnastique.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Et de la gym pour terminer, on pourra nous dire mais j'arrête pas de parler de gym, mais je m'excuse, mais une fête fédérale de gymnastique en Suisse, c'est tous les 6 ans, et en plus, la première partie est déjà terminée, Thierry Nicolet.
Ouais, on arrêtera d'en parler peut-être dans une ou deux semaines, mais pour le moment, on continue.
On est à mort.
Voilà. Il faut désormais attendre, vous l'avez dit Loïc, jusqu'à jeudi pour le retour des compétitions qui se tiendront jusqu'à dimanche. Mais le bilan de cette première partie se veut déjà positif. C'est ce que confirme le président du comité d'organisation, le Saint-Légerin, Cédric Beauvais.
L'organisation d'une fête fédérale, c'est un travail en commun et les équipes qu'on a sont juste exceptionnelles. Elles font un travail de fou, comme encore ces jours-là où finalement tout se met en place. Et voilà, c'est fierté, joie et respect pour ces équipes.
Peut-être revenir sur ces derniers mois, voire ces dernières années, qu'on se rende bien compte du travail qui a dû être effectué. Qu'est-ce que ça représente ?
C'est plus de 220 membres du comité d'organisation, donc des têtes de pont, des structures qui gèrent plus d'une dizaine de commissions sur tous les plans, que ce soit la logistique, le sport, la sécurité. C'est quelque chose de gigantesque, comme on ne connaît pas d'autres événements.
Des bords du Léman, pelouse de Chavannes, la fête fédérale de gymnastique réunit à Lausanne des disciplines méconnues et des athlètes passionnés, avec en désordre le saut en hauteur-longueur, le watering, c'est l'aérobic, le chase tag, le lever de la pierre ou encore l'indiaca et le dodgeball qui offrent des alternatives ludiques au sport traditionnel. Évidemment, d'un point de vue organisationnel, le comité s'est retrouvé à régler quelques petits soucis ça et là. Rien de bien méchant selon Cédric Beauvais.
C'est le moment où on se rend compte qu'il y a plein de choses qui fonctionnent, mais aussi plein de choses qu'on a oubliées, c'est normal. Donc ces premiers jours sont dévolus à faire en sorte que toutes les pièces du Pulse viennent ensemble. Et pour le plus grand plaisir des gymnastes, mais en tout cas on peut remarquer qu'on est sur la très bonne voie.
La dernière fédérale organisée à Lausanne s'était tenue en 1951. Quant à la première tout court, c'était en 1855. Cette année-là, ils étaient environ 400 gymnastes contre 65 000 pour l'édition 2025. Il a ainsi fallu s'adapter, Cédric Beauvais.
C'est énorme, mais il ne faut pas oublier qu'en 1855, le chemin de fer n'arrivait pas à Lausanne. Les gymnastes se déplaçaient à pied à travers toute la Suisse pour venir. Donc c'était quand même réservé à un certain nombre de personnes. Alors que là, les 65 000 gymnastes, dans leur quart de fête, ont des trajets de transport public et donc peuvent venir à Lausanne faire la fête de manière durable.
On entend souvent les organisateurs se réjouir du dernier soir pour pouvoir souffler, c'est votre cas ?
Nous, on se réjouit de tout. On se réjouit de la préparation, on se réjouit du début, on se réjouit de la fête et on se réjouit de la fin.
Et on terminera par vous dire que les gymnastes de notre région ont ramené 5 médailles de ces premiers jours de compétition. Simon Progin de la FSG Aigle Alliance a reçu l'or en trampoline individuel senior, se classant juste devant un autre aiglon, Gonzalo Alves, lui en argent. En trampoline individuel M13, deux breloques également pour Aigle, avec l'or de Keiji H. Vanden et l'argent de Roxane Andereg. Enfin, Daria Motigna de la FSG Montreux a récupéré le bronze en gymnastique artistique féminine, programme 4.
Bravo cette équipe, hey, ça va.
Pas mal, hein?
Pas mal!
Bonne nuit sur Radio Chablais. Si.
Venez, vidi, hein? Ici. Oh. Venez, vidi, ici, sur Radio Chablais.
Si j'ouvre mon micro, ça va vachement mieux. Bénédicte Lallemand de la Montée Impro Team, bonjour et bienvenue.
Bonjour!
Cabaret d'impro, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors en fait, un cabaret d'impro, c'est un spectacle qui est improvisé. Donc on n'a aucun texte, on n'a ni mise en scène, on n'a rien du tout. Il y a un maître de cérémonie qui donne à l'équipe un titre et un temps imparti. Et parfois une contrainte, comme par exemple, faites une impro anti-western ou encore faites une impro chantée. Et l'équipe a ensuite 20 secondes pour définir qui fait quoi. Et puis c'est parti, on passe à l'action, on improvise. Et ce qui est cool, c'est que tout peut arriver. Donc, il ne faut pas s'étonner si on rencontre dans une impro un astronaute qui discute avec une courgette. C'est totalement normal.
Ça se passe où?
Alors, ça se passe à Mont...
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
On a commencé en août et on est super motivés. Et en plus de ça, ce sera notre tout premier cabaret.
Pourquoi il faut y aller?
Alors, il faut y aller parce que premièrement, c'est gratuit. Et puis ensuite, c'est un spectacle que vous n'avez jamais vu et que vous ne reverrez jamais. D'ailleurs, on compte sur vous pour venir les deux jours. Et enfin, troisièmement, c'est pour passer un moment léger, à rire, à s'amuser. Et vous pouvez venir en famille parce que c'est tout public.
Toutes les infos sont sur MIT pour monter Impro Team sur Facebook et Instagram. Merci Bénédicte, plein succès et à bientôt.
Merci, merci, au revoir.
Veni, vidi, ici, sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Bra. Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Ça me fait très plaisir de l'accueillir ce soir, Gauthier Dupertuis. Bonsoir et bienvenue.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir, parce que toi tu es directeur de l'OVNI, tu nous raconteras un peu plus tard ce que c'est l'orchestre avant non identifié, et ça me permet de te poser la question, la musique c'est quoi? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas posé cette question, donc rentrons dans le vif du sujet, la musique c'est quoi?
Avec plaisir, alors la musique c'est quoi? Je suis désolé, c'est une réponse un peu bateau, mais je dirais que c'est le partage.
Ouais.
Le partage entre les musiciennes et musiciens, mais aussi avec l'auditoire, le partage entre le compositeur, la compositrice avec l'orchestre, avec le chef aussi. Ben, c'est vraiment un partage géant qui permet de réunir des gens de plein d'âges, de milieux différents, et c'est quelque chose un art qui a vraiment ce don-là, donc c'est quelque chose d'assez magnifique.
Alors c'est vrai, c'est ultime, et c'est vraiment une réponse qu'on a retrouvée très souvent quand j'ai posé, mais c'est en même temps c'est bon signe quand on a cette réponse-là.
Exactement.
Par contre, posons-nous la question, comment est-ce que le directeur partage avec ses musiciens? Ça, par contre, on n'a pas la réponse encore.
Alors, je dirais que bon, quand on a une partition, c'est un peu comme un texte, c'est juste du noir sur blanc, donc il faut partager sa vision de l'œuvre, il faut amener des émotions, il faut savoir aller chercher les instrumentistes où il faut, où c'est qu'on veut les amener, donc c'est surtout là que situe le partage. Et puis bon, il y a aussi l'après-répétition, le côté humain. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
Ouais, alors le côté humain, je le vois bien, mais comment, c'est-à-dire parlons de la vision justement que d'apprendre des directeurs, parce que finalement on pourrait se dire, bah oui, mais il y a les partitions, bah on suit la partition, on la joue normalement, c'est ok. Il y a une interprétation de la part du directeur également.
Exactement, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent pas être écrites. Il y a les nuances, tout ça, les rythmes, ça c'est écrit. Ça c'est le but, c'est d'arriver à jouer plus ou moins ce qui est écrit. Mais après voilà, c'est chaque chef a son interprétation. C'est même peut-être les tempos peuvent changer, choses comme ça. Donc c'est aussi ça qui est intéressant.
Donc potentiellement, on pourrait avoir le même morceau avec le même orchestre en changeant le directeur. Ça peut déjà avoir une teinte différente.
Ah tout à fait, même si le même orchestre à 2 minutes d'intervalle, vous changez 3 fois de chef, c'est 3 sons, 3 interprétations différentes.
Ok, et qu'est-ce qui fait, donc c'est vraiment ça, c'est juste une interprétation humaine, c'est le même morceau, mais c'est vraiment juste ça, c'est une intention en fait qu'on va mettre dedans.
Exactement, c'est le côté humain, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans la musique comme ça, live, avec des instruments acoustiques, c'est ça qui est vraiment intéressant, ouais.
Est-ce qu'il y a un échange par rapport à cette intention avec les musiciens, ou bien est-ce que c'est vraiment le directeur qui arrive et qui dit « Les gars, cette équipe, je vois ça comme ça ».
Alors ça dépend. Bon, je dirais que le but c'est quand même de pouvoir aussi faire des compromis. Il y a des fois des moments solistes. Alors à ce moment-là, ben moi je trouve que c'est bien de laisser aller l'interprétation du musicien ou de la musicienne. Mais après, pour garder un peu de cohérence, il faut aussi savoir un peu mettre tout le monde d'accord autour de sa propre interprétation en tant que chef.
Oui, bah c'est ça, parce que sinon ça s'appellerait pas directeur ou chef d'orchestre.
Exactement.
On va faire déjà une pause musicale et on va revenir juste après pour continuer à parler de cet orchestre avant non identifié qui d'ailleurs se produira le 28 et 29 juin à l'Alambic de Martigny. Ce sera à 20h le 28 et à 17h le 29. Et on se retrouve juste après cette pause.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Mais bien sûr que la musique, c'est de l'échange, fort heureusement, sinon que serions-nous? Mais c'est aussi une manière d'interpréter des notes qui sont écrites sur un papier. Gauthier Dupertuis, directeur de l'orchestre avant non identifié, comment est-ce qu'on aborde la musique dans cet orchestre avant non identifié? Déjà, pourquoi ce nom? Commençons par là.
Alors, OVNI, avant non identifié, alors effectivement, c'est un nom un petit peu, un jeu de mots, un peu un vieux jeu de mots avec objet volant non identifié. Cette fois-ci, c'est un orchestre qui est composé d'instruments avant. On est 70 à peu près. Et puis, ben aussi OVNI, un peu comme un extraterrestre qui arriverait sur Terre. C'est un peu le but de réfléchir un petit peu à l'humanité, aux défis qui se posent actuellement, à la situation dans le monde, hein, qu'est-ce qu'elle est. Donc c'est un petit peu plein d'exemples. Puis c'est aussi un OVNI parce que le concert est un peu spécial. Il y aura un côté électronique, un côté vidéo, plein de choses qui font que c'est un concert pas comme les autres.
Ok, alors ça déjà tu m'intéresses. On va faire une petite parenthèse. Comment est-ce que en fait finalement non, je pense que c'est tout lié. Quelle est la manière, comment tu décrirais la manière d'aborder la musique du coup dans l'OVNI?
Alors nous on va l'aborder déjà c'est du beaucoup de travail. C'est un répertoire qui est exigeant. C'est aussi un répertoire.
Donc là tu parles des morceaux qui sont difficiles à jouer. Ouais.
C'est ça exactement, mais qui sont tout à fait aussi très sympas à écouter. Donc on est plus sur l'esthétique musique de film, choses comme ça. Donc vraiment sympa. Et puis on l'aborde aussi avec pas mal de philosophie, avec comme j'ai dit avant des thèmes centraux dans d'actualité. Donc ouais, c'est un peu ça l'idée de l'OVNI cette année.
Oui. Alors déjà, amené à la réflexion, c'est assez joli en fait, parce que c'est pas des morceaux qui ont été composés express, tu allais toi piocher des morceaux qui... Est-ce que c'est les morceaux qui t'ont inspiré ça, ou est-ce que tu as eu l'idée puis après t'as dû aller un petit peu chercher, creuser pour trouver les morceaux qui collaient?
Alors c'est un peu tout venu en même temps. La première pièce du programme s'appelle Mothership, donc le vaisseau mère. Donc là on est déjà dans les scoops volants, dans la science-fiction. Donc c'est vrai que ça collait très bien. Là j'ai un peu réfléchi avec le nom OVNI, c'était tout réfléchi déjà. Et puis voilà, on a une pièce qui parle de, enfin une symphonie qui a été écrite par une compositrice américaine, Julie Giroux. Et puis c'est une pièce qui parle de la Terre, qui est vraiment dédiée à la nature, à la beauté de l'humanité, la diversité, etc. Qui parle aussi de la vie, de la mort. Enfin c'est vraiment ça a été tout quelque chose de global en fait, le côté OVNI.
Oui, mais ça va même un bout plus loin tellement c'est global. Ça part dans l'espace parce qu'on va avoir de l'électronique. Exact. C'est de la musique électronique ou c'est des sons électroniques?
Alors c'est une pièce qui est assez intéressante. C'est la première pièce dont j'ai parlé avant, où vous avez un ordinateur qui, à la manière de quelqu'un qui jouerait de la batterie, va jouer en même temps que l'orchestre. Donc il y a l'orchestre en live et puis il y a un musicien qui va actionner l'ordinateur pour avoir des sons qui font un petit peu techno comme ça. C'est un compositeur américain qui est aussi DJ, donc c'est aussi intéressant de mélanger les différents styles.
Ok, donc là on continue sur l'OVNI, mais on aura également du visuel. On n'est pas seulement invité à écouter, on est immergé dans un univers.
Également, effectivement, c'était l'idée d'avoir une expérience multimédia, multisensorielle. Donc la majorité des œuvres sont accompagnées de projections. On a même donc la symphonie en question, elle sera accompagnée d'un film qui a été fait par la compositrice elle-même aussi, pour mieux encore comprendre le message derrière la symphonie.
Et pour mieux plonger aussi dans le truc, parce qu'en règle générale, quand on a les deux, c'est très immersif.
Exactement, je pense que ça peut être vraiment une expérience sympa pour que ce soit, enfin, comme le journal Tintin, de 7 à 77 ans, vraiment tout le monde peut vraiment trouver son compte. Et puis on a une pièce aussi qui va soulever un petit peu la question de l'intelligence artificielle, avec des images qui ont été faites par intelligence artificielle et aussi des textes faits par intelligence artificielle. Donc ce sera l'idée pour l'auditrice de vraiment de réfléchir, hein, de faire son avis par rapport à ça. Je suis aussi compositeur, donc la question de l'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui me taraude pas mal.
Ouais, j'imagine, oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que compositeur, on pourrait se dire ouais, mais voilà, l'intelligence artificielle pourrait tout faire. Alors qu'en vrai, est-ce que on n'aimerait pas quand même avoir de l'humain tout le temps derrière? Est-ce qu'il manque pas quelque chose quand c'est une IA qui fait le son?
Alors, je pense que c'est une des questions qu'il faudra se poser en observant ces images et ces textes qui ont été faits. Après, voilà, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut être tout à fait un outil pour tout le monde, qui peut être utile, mais je pense que, ouais, le côté humain, on pourra jamais l'avoir avec un ordinateur. Espérons.
Espérons effectivement. Mais en fait, c'est un peu ça la base. Moi, ça me fait penser un peu aux vieux animés comme Ghost in the Shell, où il y avait une histoire d'intelligence artificielle qui prenait vie et puis où se définit le vivant. Là, c'est vrai que s'il y avait des extraterrestres qui atterrissaient maintenant et qu'on le voyait tous en mode Independence Day, mm-hmm. est-ce que ça, c'est finalement les questions qu'on se poserait. Où s'arrête notre humanité? Où commence la leur? Que ce soit des ovnis ou l'IA. Est-ce que c'est par là qu'on veut aller?
Alors bon, c'est des questions qui seront posées. Après voilà, chacun pourra faire réfléchir s'il en a envie. Mais en tout cas, moi, c'est des questions que je trouve qui sont centrales maintenant. Et je trouve super qu'on puisse aborder ça avec de la musique et puis que ce soit aussi de la musique sympa à écouter et surtout sympa à jouer aussi pour nous.
Oui, parce que tu disais bon, bah alors les morceaux ils sont techniques, mais ils sont super chouettes à écouter.
Oui, c'est ça. Alors, première pièce, c'est de la musique de science-fiction. La deuxième pièce, c'est très musique jeux vidéo. Si vous aimez aussi la musique des studios Ghibli, la musique de Hisaishi, ben, c'est beaucoup d'inspiration de là. Et la troisième pièce, ben, la compositrice, elle est orchestratrice à Hollywood. Donc, on est sur de la musique comme ça. Et puis, voilà, on a une petite pièce surprise à la fin qui touchera pas mal les mélomanes et les gens qui aiment bien les jeux vidéo. Donc, là, je vous en dirai pas plus pour aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, on va dire un tout petit peu plus. C'est que pour voir l'orchestre avant non identifié, il faut se rendre à l'Alambic de Martigny. C'est le 28 juin à 20h et le 29 juin à 17h. Est-ce qu'on a des réseaux si on cherche orchestre avant non identifié? Ou est-ce qu'il faut se rendre sur le net? Oh là là, mon Dieu. Pour avoir plus d'infos.
Exactement. Alors, si vous tapez sur Instagram projet.ovni, vous trouvez tout ce qu'il faut. Sur Facebook aussi. Et puis, le concert, c'est entrée libre. Mais il faut réserver avant. Donc là, vous trouvez sur eventfrog.ch/projet-ovni ou sur mon site gauthierdupertuis.com ou vous tapez projet ovni Martigny sur Google, vous trouvez tout, c'est facile, ouais. C'est magnifique. Voilà.
Merci infiniment Gauthier Dupertuis. Ça m'a fait plaisir parce que là on a une vision encore différente de la musique, une manière différente encore de l'amener. Pourtant j'ai eu des gens qui sont venus parler d'électro, de musique classique, de fanfare. Et là, en réunissant tout ça, ben on a encore un truc différent. Merci beaucoup. Et puis j'allais dire bon vent à l'OVNI. Mais vraiment
beaucoup.
Je pense sincèrement plein succès et à bientôt.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Radio Chablais, programme de nuit.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Attention, les prochains Noël vont être très intéressants. Le géant américain du jouet Mattel a conclu un accord de partenariat stratégique avec OpenAI. Vous savez, c'est la société qui est à l'origine de ChatGPT, entre autres. L'idée, c'est que la technologie de l'intelligence artificielle soit intégrée aux prochains jouets comme les poupées Barbie, créées donc des poupées Barbie intelligentes ou un jeu Uno, interactif. Alors, du côté de la Barbie intelligente, il y a un côté flippant, hein, honnêtement. Vous imaginez que ce sera quand même dans la chambre des enfants, même dans votre salon ou autre, la Barbie qui pourra vous parler, vous répondre, analyser peut-être même ce que vous êtes en train de dire, garder des souvenirs de tout ce que vous êtes en train de faire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, qui dit Barbie intelligente et autres, ça veut dire aussi interaction avec Internet et donc ultra connexion et stockage des données. Si, il faut s'en souvenir. Donc ça, on verra ce que ça va donner. Il y a un côté un peu film d'horreur quand même. Et puis pour le jeu Uno interactif, alors là, je demande à voir un petit peu le développement du truc. Mais par contre, il faut voir un point positif. C'est que si, enfin, pour une fois dans l'histoire, on a toutes et tous les mêmes règles pour le Uno, avec un jeu qui nous rappelle ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, il y aura peut-être vachement moins d'engueulades à des moments.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Est-ce bien sérieux?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Et on se dirige du côté de Carthagène, en Amérique du Sud, en Colombie plus exactement, où le fantasme des chercheurs a été retrouvé il y a de nombreuses années. Mais maintenant, il faut se poser la question, comment va-t-il être renfloué? À qui appartient-il? On parle de l'épave du San José, un galion espagnol du XVIIIe siècle qui a été coulé en 1708 lors d'une bataille entre Espagnols et Britanniques, je vous le disais, au large de Carthagène. Et dans ce bateau, il y aurait a priori 200 tonnes d'or, d'argent, d'émeraudes, des millions de pièces de monnaie. La valeur aussi, selon les chercheurs, entre 3,5 et 18 milliards d'euros. C'est énorme. Alors bien sûr, de nombreuses personnes voudraient se l'approprier. C'est le débat actuel de savoir à qui appartient désormais ce trésor. Il est revendiqué bien sûr par la Colombie, qui aimerait le renflouer le plus vite possible. Mais l'Espagne a fait de même, puisque c'était un galion espagnol, en disant « il était à nous à l'époque ». Il y a aussi le groupe autochtone bolivien Quara, qui est une justement tribu qui vit à proximité. Il y a aussi des Américains qui se sont mis sur le coup avec les entreprises de chercheurs d'or qui justement avaient retrouvé les premiers ce galion. Autant vous dire que vous imaginez pour une valeur entre 3,5 et 18 milliards d'euros, la bataille va être très très rude.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là.
Sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, c'est chaud.
Chaud.
Sur le grill. Oh,
le Foussol, c'est un festival du four solaire et ça a lieu ce 21 juin prochain du côté d'Yvorne. On en parle avec Marie du comité d'organisation. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être un peu nous expliquer la manifestation et ensuite on décrira ce que c'est qu'un four solaire et comment ça fonctionne, mais peut-être un petit peu la manifestation, le programme de ce 21 juin prochain à Yvorne.
Le festival du four solaire, c'est à la fois un concours et des démonstrations, un concours de four solaire où on demande de cuisiner un plat avec des ingrédients issus de la région puisque nous sommes aussi sous l'égide de Aigle Ville du Goût et un plat cuisiné avec le soleil.
On va expliquer, comme je le disais, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne un four solaire, mais vraiment rappeler que c'est une compétition de cuisine avec du four solaire, mais alors concrètement, qui vient et comment ?
Alors vient qui possède un four solaire, voilà, et qui a envie de tester son four et ses habiletés culinaires. Le four peut être emprunté, acheté ou construit par soi-même. Dans nos critères de concours, il y a quand même une question de d'ergonomie, de matériaux recyclés utilisés, de performance thermique et bien sûr de qualité gustative du plat qui est créé avec le four.
Alors, j'imagine que si vous avez créé cette compétition, c'est parce que vous maîtrisez un petit peu le sujet. Vous avez vous-même dans le comité des fours solaires.
Tout à fait. C'est par l'association BDB Bout de Bois où il y a eu le premier four solaire qui a été créé dans le quartier, dans un quartier d'Aigle. Et suite à ça, l'idée est venue de faire un festival du four solaire et à l'intérieur du festival, une compétition, voilà, de four.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler aussi, et c'est très important, qu'on peut venir admirer ces fours solaires, découvrir, mais surtout, il y a des démonstrations. Donc, si on est intéressé au concept des fours solaires, eh ben, on peut venir voir comment ça fonctionne, on peut venir en parler avec vous.
Exactement, on peut venir voir comment fonctionnent différentes sortes de fours solaires, des fours solaires plus ou moins portatifs, plus ou moins grands, et puis il y a aussi une bourse aux matériaux et des conseils qui peuvent être donnés pour la fabrication d'un four solaire fait maison.
Alors maintenant, ça c'est pour les explications, mais il va y avoir aussi des animations, hein, parce qu'on peut se restaurer. Il y aura bien sûr, parce qu'on est quand même dans le Chablais, on va pas déconner, de quoi aussi s'abreuver, bien sûr, et se rafraîchir. Mais il y aura au niveau des animations, Google Music de l'hashtag, musique de la rue. On fait une petite pause musicale, Marie, sur Radio Chablais. On revient ensemble d'ici quelques tout petits instants pour présenter comment ça fonctionne un four solaire et qu'est-ce que c'est. À tout de suite.
À tout de suite.
C'est chaud.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud.
Sur le grill.
Le Foussol, c'est un festival du four solaire. C'est ce 21 juin prochain du côté d'Yvorne en journée. Et il y a quelque chose d'hyper intéressant avec ces démonstrations qu'il va y avoir, c'est qu'on peut comprendre comment ça fonctionne. On pourra déguster des plats. C'est une compétition, le four solaire. Si vous en avez ou si vous voulez en créer un peut-être d'ici là, vous avez encore le temps, ben pourquoi pas. Mais ensuite, eh ben, un four solaire, on essaiera de comprendre ce jour-là comment ça fonctionne. Alors justement, Marie, c'est quoi un four solaire et comment ça fonctionne ?
La source d'énergie, c'est le soleil et par un système de miroir, on vient chauffer dans un plat, dans une casserole, les aliments pour qu'ils cuisent. Alors c'est un système de cuisson plutôt lente, mais les fours solaires, même construits artisanalement, peuvent monter jusqu'à 150 degrés.
Oui, donc ça permet vraiment de créer quelque chose. Et puis ensuite, ben, on imagine que vous allez aussi donner des conseils ce jour-là. Alors, comment on peut créer son propre four solaire? Où on peut acheter, si on veut acheter son propre four solaire ou les matériaux? Puis après, qu'est-ce qu'on peut cuisiner? Parce qu'il y a quand même des techniques là derrière.
Alors, pour créer son four solaire, Durant notre festival, il y aura la démonstration de fabrication d'un four solaire portatif, donc des ateliers pour construire ce four. Il y aura aussi donc, plein de démonstrations de différents fours. Et qu'est-ce qu'on peut cuisiner ? On peut tout cuisiner à partir du moment où on prend son temps. Alors c'est sûr que faire rôtir un poulet, c'est un petit peu compliqué, mais faire une ratatouille, faire son pain, faire des tartes, faire des viandes mijotées, il n'y a aucun problème.
Génial, j'adore le concept. On rappelle le site internet hein, pour cet événement foussol.ch, mais c'est foussol.ch pour toutes les informations. foussol@proton.me aussi pour les informations, pour les inscriptions. Puis simplement, moi je pense que c'est vraiment l'occasion de venir découvrir comment ça fonctionne, de venir apprécier les démonstrations, de venir goûter les produits qui seront faits. Puis alors il y a aussi, c'est important de lire, une bourse aux matériaux. Donc ça veut dire qu'en plus, si on veut tout à coup se créer son propre foussol, ou réparation four solaire, ce jour-là, on a tout ce qu'il faut sur place.
Effectivement, il y a une partie des matériaux utiles à la construction d'un four qui seront disponibles sur place. Voilà. Et des conseils et plein d'échanges pour ceux qui ont déjà construit leur four ou qui ont déjà des fours. Pouvoir posséder son propre four et se lancer dans la cuisson solaire.
Et puis, si on peut parler là d'écologie, on est au top du top, justement, de l'écologie et du développement durable, puisqu'on consomme rien d'autre que l'énergie du soleil avec ce four solaire. Tous les bons conseils pour cette deuxième édition du Foussol, Festival du Four Solaire, ce 21 juin prochain à Yvonne. Marie, qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire, à part de venir?
Qu'il y aura du soleil, il y aura une bonne ambiance et qu'on se fera plaisir, voilà, au sein du marché d'Yvonne.
Oui, parce qu'il faut le rappeler aussi, vous l'avez dit et très bien dit, il faut le rappeler, c'est au sein du marché d'Yvorne ce jour-là, toute la journée, le festival du four solaire de 9h à 15h. Merci beaucoup, plein succès.
Merci beaucoup, belle journée.
Foussol.ch, foussol.ch. C'est chaud, c'est
chaud. Sur le grill. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit. La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Carline, ce matin avec nous pour nous présenter une nouvelle chronique. Bonjour.
Mais bonjour.
De quoi qu'on parle ce matin?
De nous.
Ah tiens.
De l'homme, des animaux, des mammifères.
Des humains.
Voilà. Je me posais la question, suite au Covid, en fait, est-ce qu'on peut attraper les maladies des animaux?
Ah, semble-t-il qu'il y a certains trucs qui peuvent se transmettre de temps
alors,
en temps.
Alors, c'est très rare, ouais. C'est pratiquement pas possible. Souvent, les espèces animales se préservent. Mais il y a quand même des individus qui peuvent être infectés par des animaux, notamment si les microbes sont très violents. Et dans les microbes qui tuent les animaux, il y a eu, par exemple, l'Ebola.
Ah oui.
Et c'est les animaux qui ont transmis à l'homme. Mais comme ça va tellement vite, ça c'est pas vraiment, ça se propage pas plus loin. Heureusement.
Et heureusement. Et d'ailleurs, heureusement, si vous voulez jouer à vous faire peur, regardez le film Alert avec Dustin Hoffman. Il fonctionne bien pour ça.
Ah non. Non, je crois pas. J'aime pas les choses qui font peur. Mais c'est vrai que des épidémies meurtrières, on n'en a pas vraiment vécu beaucoup. Et pour éviter les drames, par exemple, en France, on hiérarchise les maladies infectieuses animales. Ils essayent de voir celles qui sont bénignes, pas bénignes. Comme ça, ils arrivent à observer et voir s'il y a des risques de propagation sur les espèces, les animaux domestiques. C'est pour ça que parfois on met toutes les poules, on les confine par exemple, ouais. On confine les cochons. Ça s'appelle les maladies zoonoses qui concernent potentiellement des humains qui pourraient les choper.
Donc, qui on pourrait partager trop de choses.
Voilà, donc les zoonoses, c'est pas bien.
C'est pas bien.
Voilà, qu'on se le dise.
Merci
on n'a pas appris grand-chose, mais c'est pas grave.
Si, si, on a compris un truc. Merci beaucoup. Tchou, tchou.
Radio Chablais, programme de nuit.
Zone. J'ai une étude qui m'a fait grandement plaisir, Mélanie, à te partager, à vous partager tous ensemble. Nous qui aimons la musique live et la musique en général, sache que la musique en direct rend aussi heureux que les câlins. Je suis tombé sur cet article, ça en a beaucoup parlé la semaine dernière et donc je me suis dit, je vais le reprendre cet article et cette étude pour vous la partager parce que c'est une expérience en fait qui a été menée lors du festival de musique de Dresde en Allemagne et puis ça montre cette expérience qu'un concert de musique fait plus d'effet dans notre corps qu'un câlin.
C'est drôle.
C'est incroyable ça.
Est-ce que ça dépend aussi du style de musique ou pas du tout?
Alors là c'était de la musique classique je crois.
Okay.
Alors il parle pas du style de musique, il parle du fait que c'était de la musique live.
Ok.
C'était une étude qui a été menée lors d'une soirée placée sous l'égide Sound and Science.
Okay.
Alors, ils ont pour ça mesuré le taux d'ocytocine dans le sang avant et après cette expérience musicale. Alors au début, la valeur moyenne était de 37,54 picogrammes par millilitre. Et puis ensuite, c'est passé à 203,17
ah ouais, quand même.
Picogrammes par millilitre. C'est incroyable.
C'est ouf.
Hein, et puis il faut savoir que l'ocytocine, ça fait du bien parce que ça réduit le stress, l'anxiété et la douleur.
C'est l'hormone de l'amour. Oh,
voilà, on se sent vraiment rempli. Quand on se sent rempli de chaleur, c'est ça, c'est l'ocytocine.
Ça et fait donc, tout là, chaud dans le cœur.
Oui,
comme ça.
Oui. Ah non, mais c'est incroyable cette sensation. Et donc là, ils l'ont ressenti très fort parce qu'il faut savoir hein, que normalement. Hein, une étreinte de 20 secondes avec son partenaire entraîne une augmentation de l'ocytocine de 3 à 5 picogrammes par millilitre et une proximité physique très étroite provoque un plus de 50 à 150 picogrammes par millilitre. Donc on est quasiment 80 picogrammes par millilitre de moins que ce
qu'on... C'est fou quand
c'est
même.
C'est fou, hein.
Ouais, moi j'aurais pas pensé, mais...
Il faut changer de partenaire si parce que...
Oui,
alors,
c'est ça.
Si...
Ça, en fait, ça dépend à quel stade de la relation tu es quand tu fais ce... Bah
c'est des moyennes, donc voilà, c'est pour vous dire que la musique live, chers amis, qu'elle soit internationale ou suisse, il faut aller la voir et la soutenir.
Mais
parce qu'on